Retour sur la vie et le message de Václav Havel, ancien président et dissident, héros de la révolution de velours, décédé dimanche matin à l'âge de 75 ans. Jan Sokol est philosophe, ancien dissident, lui aussi candidat malheureux à la succession de Havel en 2003. Il s'est souvenu pour Radio Prague de sa rencontre avec Václav Havel.
Chapitre de l'histoire.
Je ne me souviens pas exactement, c'était vers la fin ou à la moitié des années 60, dans un groupe d'amis, il m'a fait une grande impression dès le premier moment, par sa modestie, un certain autocontrôle qui n'est pas si commun parmi les intellectuels. Ce que Havel jamais ne faisait, c'était de bavarder.
Donc évidemment, Václav Havel est connu pour avoir été un des fondateurs de la Charte 77. La Charte 77, vous l'avez également signée. Comme lui, vous en avez également, vous avez subi les représailles du régime communiste. Est-ce que vous pourriez éventuellement évoquer un petit peu l'atmosphère à l'époque, si c'est possible, hein, c'est difficile sans doute, de cette époque justement de dissidence, comment est-ce que finalement les gens s'entraidaient?
L'époque n'était pas une époque de terreur. C'était plutôt une époque très sombre, très sans espoir. Et donc, Havel a eu le courage l'exprimer sans beaucoup d'espoir immédiat. Et donc, je l'ai beaucoup apprécié, même si on ne s'est pas rencontré trop souvent à l'époque, parce qu'il a passé beaucoup de temps en prison. Et pour moi, c'était pour la première fois, mais typique pour lui, car il a abandonné beaucoup de ses ambitions personnelles d'un auteur assez connu, qui a eu des succès, pour servir une chose publique, pour servir le peuple ici. Alors c'était magnifique.
Finalement, c'est quelque chose qui a continué par la suite, puisque d'une certaine façon, il est devenu président. C'était pas forcément dans ses ambitions. D'ailleurs, il disait souvent que c'était pas finalement quelque chose qu'il avait voulu au départ. Et il a dû aussi renoncer finalement au cours de sa présidence à l'écriture, en tout cas une écriture peut-être plus poussée que ce qu'il faisait quand il était justement président. Finalement, c'est un peu une vie aussi qu'il a sacrifiée par la suite aussi, d'une certaine façon.
Oui, pour lui, c'était une grande surprise, une chose qu'il n'a pas acceptée avec un cœur léger. Mais vous savez, je me souviens toujours au mot de Platon qu'un au gouvernement, il doit y avoir des gens qui ne le veulent pas. C'est typiquement, c'est exactement le cas de Havel. Il a toujours, pendant toute sa présidence, il a toujours beaucoup réfléchi sur soi-même. Il a fait beaucoup de choses pour se défendre à ne pas devenir un politicien, un professionnel. Vous savez, il a toujours douté de soi-même, de son. Parfois, parmi les amis, il faisait la mine comme s'il avait même honte d'être au pouvoir.
Alors justement, j'ai lu quelque part une phrase d'Arthur Miller qui dit que c'était le premier président surréaliste au monde. C'est une bonne définition?
Oui, il a toujours resté un homme. C'était délicieux de le voir dans une négociation importante comme président. Il a toujours su adresser ses partenaires d'une manière tellement amicale et même avec de l'humeur. qui a fait son grand succès, pas seulement les grandes paroles qu'il a bien managées, mais en particulier cette attitude amicale, toujours avec un léger sourire, parfois avec de l'humeur. Donc, son autorité consistait toujours dans ce qui ne s'imposait jamais.
Justement, quelle atmosphère un peu régnait dans les années 90 au château? On a souvent dit, voilà, les Rolling Stones étaient invités au château, ou alors Václav Havel se baladait en trottinette dans les couloirs du château. C'est quasiment, justement, surréaliste, on dirait quasiment que c'est une utopie devenue réelle, en fait, cette époque-là.
Il faut imaginer cette énorme difficulté pour un dissident de devenir un fonctionnaire de l'État. Parce que pendant toute notre vie, jusqu'à 89, on a éprouvé toujours l'État comme un ennemi dangereux. Oui. Toutes les institutions de l'État que nous avons rencontrées nous ont mis en danger. Et donc, à un certain moment, on devient le chef de toutes ces institutions. C'était un changement énorme, et naturellement aussi avec lui-même avait besoin de temps pour le maîtriser d'une certaine manière. Et par les choses comme ce que vous rappelez, il a cherché à se faire ce devoir un peu plus léger, oui. À imaginer qu'il n'est pas seulement le président.
Václav Havel a-t-il un successeur spirituel, selon vous? Est-ce que, par exemple, quand on pense à Masaryk, finalement, son successeur, c'était Benesch, d'une certaine façon, qui était le porteur de ses idées, est-ce que c'est la même chose pour Václav Havel? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que c'est assez flou, en fait. Hein.
Oui, c'est une grande difficulté. J'ai peur pour la politique de mon pays. Parce que, vous savez, il a fait une grande carrière. Il a apporté à l'État à cet État, petit et pas trop signifiant, il a grâce à lui que la Tchécoslovaquie a acquéri un certain renommé international tout à fait inouï. Même Masaryk n'avait pas un tel succès international. Et c'est quelque chose que nul ne peut pas reproduire. Et cette succès était grâce à sa manière ainsi humaine, comme je disais, modeste, avec un certain, il était presque timide. Il faisait l'impression presque timide, toujours un peu courbé, et avec ce sourire qui a charmé chacun de ses interlocuteurs. Et c'est quelque chose qui est naturellement derrière tout ça, il y avait une grande oui, il faut le dire, générosité, magnanimité, par exemple envers l'Europe, qui était pour lui quelque chose qui n'appartient au domaine du calcul. C'est quelque chose qui s'est perdu.
Oui, je me pose la question, hein, parce que évidemment, on avait pris l'habitude, même voilà. Après la fin de ses mandats présidentiels, qu'il reste finalement, après une petite pause, hein, parce qu'il avait fait une petite pause, hein, il était parti au Portugal, ne pensait plus vraiment intervenir aussi souvent dans la vie publique, mais finalement, c'est la politique doit être un animal qui vous rattrape. Il intervenait fréquemment, il commentait l'actualité politique jusqu'au dernier moment. Récemment, il avait critiqué notamment certaines dérives extrémistes au sein du gouvernement. Hein. Je fais référence notamment à Ladislav Batora, au parti Affaires Publiques. Il s'inquiétait, hein, de la vie politique de manière assez sérieuse. Justement, enfin, je veux dire, comment aujourd'hui va-t-on, puisque finalement Václav Havel était un peu ce miroir qui nous renvoyait les choses de la vie politique, qui va le faire à sa place maintenant?
Oui, il est comme ça, il est irremplaçable, vous savez, c'est même parce que il est devenu politicien dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et donc son autorité domestique, internationale, aucun ne peut pas le reproduire. Ce qui lui a fait des soucis dans le dernier sang, c'est un léger tournant envers un égoïsme de l'État qui pourrait être dangereux. Même maintenant, après sa mort, le public se rendra mieux compte de la comment c'est dangereux de jouer avec des idées nationalistes, chauvinistes, tout ça, oui. Droite, disons, brunâtre.
Juste pour terminer, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que Václav Havel s'inscrit dans une sorte d'héritage finalement de Masaryk, par exemple, premier président de la Tchécoslovaquie, et Václav Havel, dernier président de la Tchécoslovaquie avant de devenir premier président tchèque?
Oui, c'est ça, oui. Alors Havel a partagé beaucoup de traces avec Masaryk. Mais naturellement, il a fait d'une manière très personnelle. Alors, on ne peut pas le comparer avec Masaryk quant à leur manière de, par exemple, de s'adresser au public ou de ça. Oui. Mais dans les idées d'un bon État, d'un bon État démocratique, naturellement, il y a une liaison très étroite.
C'était le philosophe Jan Sokol qui s'est souvenu de sa rencontre avec Václav Havel.